Bonsoir à tous et tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter au nom de RCN et en mon nom personnel une bonne et heureuse année 2026. On vous sait de plus en plus nombreux à suivre la radio et on vous en remercie. Alors ce soir, Tempo Classique vous emmène en promenade en Moselle dans un charmant village près de Delme et dans lequel vit la famille Claus, constituée de Barbara, la maman, Alexandre, le papa et les trois enfants, Simon, Bastien et Noé. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors j'entends déjà votre questionnement, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette famille qui justifie que Tempo Classique quitte son camp de base du Haut du Lièvre à Nancy? Eh bien, dans la famille Claus, on est tous musiciens. Barbara est professeure d'écriture au conservatoire à rayonnement régional de Metz Métropole. Alexandre est trompettiste et cornet solo à l'Orchestre National de Metz Grand Est. Et les trois enfants, qui ont respectivement, on va voir quel âge, jouent tous de plusieurs instruments et sont ou ont été élèves au conservatoire de Metz ou de Nancy. Alors on va commencer par faire le recensement de tous les instruments qui ont été joués dans ces murs. Alors Simon, tu joues de...
cor et piano.
Puis tu joues de la baguette aussi.
Oui, essentiellement oui aujourd'hui. Chef d'orchestre, oui.
Voilà. Bastien?
Pour moi c'est le violoncelle et le piano.
Voilà. Noé, le petit dernier?
Moi c'est le piano et les percussions.
Voilà, et puis alors les parents, Barbara c'est...
le piano.
Hein? Et... et puis Alexandre?
Eh bien moi c'est la trompette.
Voilà, alors Barbara et Alexandre, cette maison dans laquelle vous habitez doit regorger de bonnes vibrations musicales. Alors je suppose que quand les enfants étaient en études, il fallait un véritable planning millimétré pour que chacun ait le temps de travailler tous ses instruments sans gêner les autres. Comment faisiez-vous entre les trajets via Metz, les horaires différents, les contraintes professionnelles et puis peut-être les activités extra-musicales?
Eh bien c'était pas toujours évident. Donc il a fallu installer le matériel de musique dans la maison, c'est-à-dire on a une cuisine assez bien équipée avec un piano, un marimba, un xylophone, une batterie également. Donc voilà, donc on est un peu équipé à la maison avec tous les instruments de musique. Et puis voilà, on se débrouillait un petit peu chacun son tour avec les instruments. C'est surtout Simon, le plus âgé, qui a commencé à beaucoup travailler le piano à la maison. Donc voilà. Ensuite, Bastien, bien sûr, un petit peu, et Noé encore un petit peu derrière, mais bon, ça se raréfie maintenant un petit peu. Avec les études au lycée, maintenant, c'est un peu plus compliqué, on va dire.
D'accord. Vous n'en avez jamais oublié à un endroit ou à un autre?
Mais pas encore. Enfin, c'est pour ça qu'on en a fait trois, au cas où, comme ça, il reste encore au moins deux. Voilà.
Très bien. Alors, une famille dans laquelle on pratiquait aussi beaucoup la musique, c'est celle de Jean-Sébastien Bach. On va écouter l'Allegro du concerto brandebourgeois numéro 2, BWV 1047.
Thank you.
C'était l'Allegro du concerto brandebourgeois numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, BWV 1047, la famille Bach, une famille où tout le monde fait de la musique, un peu comme dans la famille Close chez laquelle je suis ce soir. Alors Barbara et Alexandre, pourquoi avez-vous choisi de faire de la musique à vos enfants ?
Et voilà, c'est une bonne question. Bon, on est tous les deux musiciens, bien sûr, dès le départ, donc ça nous semblait un petit peu évident. Et puis, dans nos plannings, je dirais, respectifs, Barbara étant professeure au conservatoire et moi étant à l'orchestre avec un planning très particulier, c'était aussi une solution un peu de facilité de les occuper le soir après l'école. Ils allaient au conservatoire également. Et voilà, donc c'était un peu la raison. Et puis surtout, bah voilà, on aime notre métier, on aime ce que l'on fait, on voulait leur faire partager en fait cette passion de la musique. Alors bien sûr, jeune élève, mais peut-être dans l'optique plus tard qu'ils en fassent peut-être leur métier, on ne savait pas, en tout cas sans obligation aucune. Mais voilà, donc bon, on va en discuter après, mais certains ont continué, d'autres non. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas oui, c'était un choix important pour nous, voilà, de partager ça avec eux.
Alors Alexandre, pratiquer la pédagogie avec les siens, c'est facile d'être papa de musicien, de les faire travailler ?
Oui et non, ça dépend. Ça dépend. Il y a une chose toute simple déjà quand on leur a fait choisir leur instrument ou qu'on a choisi pour eux, on va dire, c'est que moi j'ai pas trop voulu qu'un de mes enfants fasse la trompette par exemple. Je trouvais ça compliqué d'avoir mes enfants à la maison, de travailler la trompette avec eux alors qu'ils avaient un autre professeur en école de musique ou conservatoire. C'était pour moi un petit peu embêtant, donc on a préféré leur faire d'autres instruments. Mais après, oui, c'était assez sympathique finalement, on discutait. Moi, le violoncelle de Bastien, par exemple, je ne connais pas ces instruments, c'était assez intéressant finalement, de travailler sur ce style d'instrument en tout cas. Et de pouvoir après jouer de temps en temps avec eux, à certaines occasions, et ça c'était assez sympa également.
Alors quand vous travaillez chez vous, vous savez qu'il y en a toujours un ou l'autre qui vous écoute, alors vous devez être la référence, vous êtes l'exemple à suivre dans le travail.
Ah, bonne question, il faut leur demander ça peut-être, si c'était bien je ne sais pas. C'est ça. Après moi à la maison, dans mon travail, quand je travaille ici surtout, je travaille beaucoup la technique. C'est-à-dire que le travail de base, donc quelque part, ça serait pour eux un peu important, un modèle. Le travail de base d'un musicien, c'est ce qu'il y a de plus important dans tous les instruments. Le travail journalier, régulier, et ils m'entendent jouer quasiment tous les jours. Et ça, c'était une chose. Après, qu'ils m'entendent jouer, que non, ça ne me dérangeait pas plus que ça, en tout cas. Non, ça va.
Simon, papa était un bon exemple ?
Alors, comment dire pendant mon enfance, adolescence, disons que en tant que corniste, notamment tout ce qui était technique, ça m'ennuyait un petit peu. Donc je l'entendais faire la technique et moi ça m'ennuyait terriblement. Mais non, en fait, ça vu qu'on a l'habitude d'entendre tous les jours faire la technique, c'est devenu quelque chose de normal et en fait qui s'est ancré en fait en nous. Et donc ça a influé aussi parce que du coup, même ma technique, même si je prenais pas plaisir à la faire, je la faisais parce que j'entendais mon père la faire aussi. Donc il y a quelque chose qui s'ancrait à l'écouter faire tous les jours.
D'accord. Et vous avez joué ensemble souvent ?
Souvent, non. Non, c'est vrai que c'est pas arrivé souvent. Alors on a organisé des quelques petits concerts, on en reparlera peut-être après, ensemble dans notre village, et ça nous a permis un peu de jouer, mais des concerts réguliers ou jouer ensemble même à la maison, c'est arrivé finalement peu souvent, de par aussi nos plannings, enfin mon planning de travail à l'orchestre, où finalement j'étais très absent souvent en soirée ou le soir ou les week-ends, donc je jouais pas très très souvent avec eux en fait.
Alors, une autre famille dans laquelle il y a des musiciens depuis plus de 5 générations, c'est celle de Jean-Claude Casadesus, le chef fondateur de l'Orchestre National de Lille. Alors, on connaît bien sa maman, l'actrice Gisèle Casadesus, mais il y a dans sa propre descendance des gens comme la cantatrice Caroline Casadesus, et puis quelqu'un dont on entend beaucoup parler actuellement, c'est le pianiste Thomas Enko. Alors, je vous propose d'écouter Jean-Claude Casadesus à la tête de son orchestre dans le final du 3e concerto de Beethoven avec au piano Miguel Angel Estrella. C'était le final du concerto numéro 3 de Ludwig van Beethoven, concerto pour piano, dans l'interprétation de Jean-Claude Casadesus, l'Orchestre National de Lille, et le pianiste était Miguel Angel Estrella.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors on revient avec les enfants de la famille Klaus, le petit dernier Noé. Tu as quel âge Noé ?
J'ai 16 ans.
Et tu as commencé la musique à quel âge ?
J'ai commencé la musique à vers 4-5 ans.
Et tu joues de quels instruments ? On a dit tout à l'heure.
Donc je joue du piano et des percussions.
Au conservatoire alors je suppose ?
Oui.
Et tu es en quel niveau ?
Alors j'ai dû arrêter l'année dernière suite à un emploi du temps trop chargé. Mais donc j'étais en 2C4 dans les deux disciplines.
D'accord, t'as arrêté les deux disciplines ?
Malheureusement, oui, parce que mon emploi du temps ne me permettait vraiment pas à ce moment-là de continuer.
Donc je suppose que ton avenir n'est pas directement dans la musique ?
Non, je pense pas que ce soit dans la musique.
Et t'as une idée de ce que tu veux faire plus tard ?
Je pense que je me tournerai plutôt vers l'informatique. Suite à mes spécialités du lycée, tourner vers l'informatique.
Mais tu sais que l'informatique et la musique, ça peut marcher ensemble, hein ?
Oui, c'est vrai. Étant en classe d'écriture et faisant donc de la composition de mon côté, je sais que on peut faire, enfin, on peut mélanger les deux disciplines, étant informatique et musique, afin dans la composition musicale.
Mais on peut aussi créer du son, faire des choses comme ça, non ?
Oui, à l'aide d'un synthétiseur ou voilà, on peut créer des sons, les mixer, puis créer des musiques avec.
Et qu'est-ce que tu as aimé quand tu as fait de la musique ? Ça te plaisait d'en faire déjà ?
Oui, ça j'aimais beaucoup faire de la musique. Surtout en soi, je pense, dans les débuts, c'est vraiment le moment où j'étais, on va dire, le plus passionné par la musique, le piano et la percussion. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais voilà.
Bon, ça veut dire que je peux pas te poser la question suivante. Pourquoi tu aimes la musique ?
Ah ! En soi, non, je sais pas trop pourquoi. J'aime la musique. Je dirais quand même que si j'aime la musique, c'est tout d'abord parce qu'au final, j'ai toujours vécu dans ce milieu. Enfin, avec mon père étant trompettiste, ma mère étant prof d'écriture et mes frères musiciens.
Oui, t'avais des exemples tout trouvés.
Oui.
Bon, t'as pas fait ça juste pour leur faire plaisir quand même ?
Non.
Bon, ben, ça me rassure un petit peu. Qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors de la musique ?
En dehors de la musique, je fais donc du tennis.
D'accord. Et de l'informatique ?
Oui, et un peu d'informatique en plus du lycée.
Ouais. Donc tu as une jeunesse bien occupée, malgré le fait que tu fasses pas de musique ?
Oui.
On peut vivre sans musique.
Oui. Oh. C'est une question assez compliquée. Parce que malgré tout, quand j'ai dû arrêter la musique, ça m'a fait un énorme vide. Et c'était vraiment, c'était au final très dur au début, malgré tout, de ne plus en faire.
Mais rien ne dit que tu n'y reviendras pas.
En effet. Je pense que je vais quand même y revenir un jour. Peut-être après les... Peut-être pendant les études ou alors après, si jamais je peux.
D'accord. Alors Bastien, tu as commencé à faire de la musique à quel âge ?
Je pense aux alentours de 4-5 ans, pareil à peu près.
Et tu as commencé avec le piano ?
Avec le piano, ouais, pendant quelques années, peut-être un ou deux ans, et après le violoncelle par la suite.
D'accord. Et alors maintenant, tout ça, c'est derrière toi ?
Oui, alors ça fait une paire d'années que j'en ai pas fait. Hein. J'ai arrêté il y a à peu près 5-6 ans. Donc, parce que j'étais parti à l'étranger à ce moment-là, donc ça m'a un peu coupé. Quand je suis revenu avec le lycée, Voilà, c'est tout reprendre d'un coup, c'est un peu compliqué, donc je me suis concentré sur le lycée, puis après les études.
Et alors, sans indiscrétion, tu fais quoi comme études?
Là, je suis en langue étrangère et affaires, donc bon, techniquement, ça n'a pas trop lien avec la musique, hein, c'est plus, lié au commerce, finance, etc. Donc voilà.
Et quelle langue?
Anglais, chinois, principalement, et après des langues additionnelles, entre guillemets, comme l'allemand.
T'es allé en Chine?
Oui, je suis allé en Chine donc pour un stage l'année dernière. Donc voilà, c'était pas mal en tout cas de pouvoir y aller dans le cadre des études. Parce que c'est pas facile hein, donc d'aller là-bas, surtout dans le cadre d'un stage.
D'accord. Et t'as découvert la musique chinoise là-bas?
Non, du tout. Bon, on en entend parfois. Hein. C'est vrai que c'est un peu différent. On retrouve pas mal d'instruments qu'on ne connaît pas forcément. Mais voilà, globalement. Pas vraiment découvert de nouvelles choses en Chine par rapport à la musique.
D'accord. Tu avais un violoncelle?
Oui, j'avais un violoncelle que, bon, vu que ça faisait 5-6 ans que je n'ai pas pratiqué, hein, je l'ai mis en vente, hein, forcément, pour éviter que derrière, il reste dans la boîte et qu'éventuellement, il se dégrade. Hein, donc, voilà.
Donc si vous avez envie d'acheter un violoncelle, vous contactez RCN et puis on fera ce qu'il faut pour vous mettre en relation avec la famille Klaus. Alors Simon, toi tu es l'aîné de la fratrie, alors tu es totalement immergé dans le monde musical. Raconte-nous un peu ton parcours.
Alors complètement immergé dans le monde musical depuis tout petit. Donc j'ai commencé par le cor et ensuite le piano une année ou deux après. Mais en fait ce qui m'a beaucoup marqué depuis enfant, c'est que mon père m'a mené aux répétitions à l'Orchestre National de Metz, l'Orchestre National de Lorraine à l'époque. Et très tôt, à l'âge de 6-7 ans, j'allais assister aux répétitions et j'ai toujours été fasciné par le son, la puissance que pouvait dégager un orchestre en termes de volume sonore, de masse sonore. Et ça m'a toujours intrigué, et notamment cette position du chef. À l'époque, c'était Jacques Mercier qui était directeur musical. Et j'ai toujours été intrigué par ce personnage qui ne pratiquait pas d'instrument, qui n'était pas non plus chanteur, mais qui pourtant, par ses gestes, influait sur autant de personnes, 70-80 musiciens. Et en fait, ça a toujours été dans un coin de ma tête, cette position-là du chef d'orchestre. Et ensuite, à l'âge de 13 ans, je me suis inscrit dans la classe de Julien Leroy, de direction d'orchestre au Conservatoire de Metz. Ça a été un moment, je pense, important, parce que je me suis aussi rendu compte de tout ce qu'implique cette position et ce métier de chef. J'ai eu ma première session d'orchestre à l'âge de 13 ans, et puis c'était très difficile et plus rien pendant 4 ans. Et j'ai pas dirigé d'orchestre pendant 4 ans ensuite, parce que c'est une position qui est assez délicate, surtout quand on est jeune à 13 ans. On entend tout ce qui se passe en fait, de la position du podium, de ce que disent les musiciens. Alors on entend pas distinctement ce que peuvent dire, mais on entend que ça parle. Et on ne sait pas si ça nous concerne nous, si c'est notre faute ou pas. Et du coup, il y a un côté qui était très perturbant à l'époque. Et du coup, je n'ai plus dirigé pendant les 4 années d'après. Mais par contre, j'assistais aux cours. Et j'ai beaucoup appris en regardant les autres élèves diriger, expérimenter, travailler, comment ils s'adressaient à l'orchestre aussi, les choses bien qu'ils pouvaient faire, les erreurs aussi. Et je me suis remis à diriger à l'âge de 17 ans. Et ça a tout de suite été beaucoup plus vite, beaucoup plus simple et naturel. Alors, il y a eu évidemment plein de défauts qui pouvaient être les miens et que j'ai toujours encore aujourd'hui, que je travaille là-dessus. Mais ça a été assez évident, en fait, pendant tout mon parcours, comment je suis arrivé vers... j'ai envie de dire cette vocation, c'est pas une vocation, mais vers cette...
Orientation,
oui, c'est ça.
Alors, quel effet ça fait quand on se retrouve face à 80 personnes, comme ça, pour la première fois, la première répétition, au moment où on lève la baguette?
Alors il n'y a pas 80 personnes la première fois quand j'avais 13 ans, il y en avait peut-être déjà 30, donc c'était déjà beaucoup. Non, pour un... Et mais déjà 30 c'était beaucoup, ah oui. 80 c'est encore plus, vous en doutez, hein, c'est encore plus. Honnêtement ça fait plus beaucoup d'effet. La première fois j'en parlais aussi à ma mère quand j'avais 16 ans, 10 ans, j'y croyais pas en fait pouvoir être chef parce que... m'adresser devant une classe, même à l'école, c'était difficile parce qu'il y a une assurance à avoir pour pouvoir parler devant autant de gens, même pour poser une question, c'est difficile.
Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en répétition, quand j'ai repris à l'âge de 17-18 ans, c'était parce que la position de chef impliquait ça, c'était beaucoup plus facile à parler devant, devant des gens. Et du coup, c'était beaucoup plus... ma voix était beaucoup plus posée, beaucoup plus, c'était beaucoup plus aisé de parler devant, devant autant de gens. Et en fait, le nombre n'importe plus après. Je veux dire, c'est, notre position fait qu'on doit s'adresser à tel nombre de musiciens. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de, d'impressionnant à la longue, en fait, avec l'expérience.
Et qu'est-ce que tu leur racontes aux musiciens ?
Oula, qu'est-ce que... Le moins de bêtises possible. Non, essentiellement, en répétition, notre rôle de chef demande de mettre en place l'orchestre, de faire qu'on joue la même chose en même temps.
C'est mieux,
oui, en effet. Donc, on parle souvent de balance, d'équilibre, de scène de famille à entendre plus ou à entendre moins, d'articulation, de nuances, de tous les paramètres qui font qu'à la fin, la musique sonne mieux et sonne ensemble avec tous les musiciens.
Et à la fin, justement, ça sonne comme tu as envie de l'entendre ?
Alors, j'ai appris avec les années, notamment mes années au CNSM de Paris, où quand je suis entré, c'était vraiment l'idée que je me mettais à la direction d'orchestre. C'est-à-dire que j'ai une envie, une vision de comment je veux que l'œuvre sonne. Et je dois la plaquer et le faire en sorte que l'orchestre fasse ça. Et j'ai appris avec mes années que, en fait, j'ai certes l'idée de comment je veux que l'œuvre sonne, mais l'orchestre propose aussi autre chose. Et mon rôle est d'arriver à trouver pas un compromis, mais de trouver un juste milieu entre ce que propose l'orchestre et ce que je souhaite avoir, pour avoir un projet fait en commun, y aller dans le même sens et avoir l'œuvre la plus aboutie à la fin.
Alors ce juste milieu, est-ce que tu l'as eu récemment, puisque tu as dirigé l'Orchestre National de Metz Grand Est en concert dans la grande salle de l'Arsenal ? Ça s'est bien passé ? Papa était dans l'orchestre ?
Alors papa était dans l'orchestre, ah. Bien évidemment. Non, c'était une semaine très très chouette avec l'orchestre, première fois que officiellement invité, donc avec l'orchestre que je côtoie depuis maintenant 20 ans, donc avec des musiciens que je, voilà, des visages que je reconnais depuis tant d'années. Après, par rapport à la question du juste milieu, en fait, c'est pas une. Je pense que c'est quelque chose qu'on travaille toute notre vie pour le comité de chef. Ça dépend des contextes aussi des musiciens, de le son de l'orchestre, aussi des réactions qu'ont les musiciens par rapport à notre technique, nos gestes. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on recherche, quoi qu'il arrive, et qu'on repart de zéro avec chaque orchestre. Donc, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon travail avec trois beaux concerts avec l'Orchestre National de Metz Grand Est.
Et comment on prépare, comment on aborde les partitions qu'on ne connaît pas ?
Alors, bonne question. Notamment, j'en parlerai peut-être après des partitions qu'on connaît déjà aussi. C'est une autre question encore. Mais on part de la partition, donc, notamment les cours d'écriture qu'on parlait avant, mais aussi d'analyse, d'orchestration, permettent de comprendre les paramètres et comment a été écrite la partition par le compositeur et d'essayer de faire entendre ça dans notre tête pour pouvoir se faire une idée de comment doit sonner la pièce. Et ensuite, c'est tout un travail de style qu'on va chercher avec des interprétations, notamment qu'est-ce qui a pu se faire, les traditions, mais aussi se poser la question des traditions, pourquoi elles existent. J'ai toujours en tête une remarque d'un de mes professeurs que j'ai eu, Johannes Schleffli, qui était prof à Zurich, qui disait que par rapport aux traditions, qu'il fallait se méfier aussi, parce que souvent les traditions pour le répertoire symphonique pouvait aussi venir d'un chef qui n'arrivait pas à diriger une certaine chose et du coup ralentissait parce que c'était plus simple pour lui. Donc il y a de ça, il y a aussi des traditions qui sont vraiment purement stylistiques, mais en tout cas se méfier de ça et travailler là-dessus pour savoir qu'est-ce qui est le... comment se rapprocher le plus proche de l'œuvre, de la pensée du compositeur.
Très bien, alors j'ai préparé cette émission et dans la préparation je suis allé voir ta biographie. Alors j'ai lu qu'on disait que tu avais une technique exceptionnelle pour diriger. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu pourrais la définir ?
Qu'est-ce que j'en pense ? Ça, c'est très flatteur, mais bon, ça vient pas de moi, donc. Donc, difficile d'en parler. Après, par rapport à ma technique, je pense pas non plus avoir la meilleure technique ni la plus mauvaise, mais disons que j'ai beaucoup travaillé, notamment avec le travail sur vidéo, où j'ai passé des heures et des heures et des heures à analyser les vidéos, à voir qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui marchait pas. Notamment, ce qui est intéressant depuis le CNSM, c'est qu'on a une caméra qui nous filme pour les répétitions.
Le CNSM, c'est le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où tu es en classe de direction d'orchestre chez Alain Altinoglou, c'est ça.
Depuis 4 ans. Et donc, dans cette classe, Toutes les sessions d'orchestre qu'on a, 6-7 dans l'année, avec l'orchestre des lauréats, on est filmé, et la caméra, et du coup, on nous voit de face, elle est derrière les corps. Et ce qui est intéressant, notamment avec les corps, donc je suis corniste, donc je peux en parler encore mieux, c'est que c'est très difficile pour un corniste c'est plutôt très facile de se planter, et souvent c'est à cause du chef. Dans un geste qu'on peut faire, non mais c'est vrai.
Jamais de la faute de l'instrumentiste dans ces moments-là. C'est grâce à l'instrumentiste que c'est bien, mais c'est pas de sa faute quand ça passe pas.
Non mais le geste d'un chef influe beaucoup, ou en tout cas dans l'idée c'est ce qu'il faudrait. Mais du coup certains gestes peuvent également déranger, et c'est très révélateur pour un corniste, pour un pupitre de corps, quand par exemple, des articulations, même des fausses notes arrivent, ça peut être souvent, et j'ai vu ça avec mes propres vidéos, c'est qu'un geste peut être perturbateur. Et ça, c'est super important de voir dans des vidéos, analyser qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et comment essayer de le changer. Donc j'ai beaucoup travaillé ma technique là-dessus, en fait, en travail de vidéo.
Alors Alexandre, vous étiez dans l'orchestre. C'est quoi la définition de la technique de votre fils ?
La définition de la technique de mon fils ? De ce que j'ai vu, en tout cas, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est une souplesse de direction. Qu'on n'en trouve pas avec tous les chefs. On peut avoir, nous, de temps en temps, l'orchestre, chef invité. Mais ce qui est ressorti un peu de la vie, je dirais, générale, même de mes collègues, un peu en discutant après le concert, c'est une souplesse de direction, une clarté. Et ça, c'est hyper important pour nous, musiciens, d'avoir un chef devant qui exprime beaucoup de choses et qui montre ce que l'on doit jouer, ce qui est écrit sur notre partition, en fait. Ça a été vraiment très, très marquant, pour moi, en tout cas.
Bon, écoutez, je propose qu'on écoute la bacchanale de Camille Saint-Saëns, donc extrait de l'opéra Samson et Dalila. C'est Simon Clauss qui dirige, et c'est quel orchestre, Simon ?
L'orchestre est lauréat du Conservatoire de Paris.
On écoute. Thank you. C'était la Bacchanale, extraite du Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. L'orchestre des lauréats du Conservatoire de Paris était dirigé par l'un de mes invités de ce soir, Simon Clauss.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors, Alexandre, donc le papa, vous êtes au conseil municipal de votre village et vous organisez de temps en temps des concerts à l'église. Ça sert à quoi ?
Eh bien, amener la musique dans mon village. J'ai profité, voilà, je suis installé ici. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux aussi apporter eh bien, à mon village. Alors déjà, bon, m'investir dans le conseil municipal. Ah, voilà, vous entendez peut-être pas au loin un téléphone qui sonne. Et voilà, c'est une musique différente. Hein, voilà, c'est, voilà. oui, de m'investir dans mon village, au conseil municipal. De montrer un peu aux gens du village aussi qu'ils sont pas très peu musiciens, en tout cas, ce que l'on peut faire avec la musique, justement. Et donc, dans nos villages, on a un conseil de fabrique qui s'occupe également de l'église. Et j'ai eu un peu l'idée, quand je suis arrivé, de proposer d'organiser des concerts à l'église. Et on a un orgue qui est pas mal du tout. Ça permet de développer des concerts, justement, dans notre église. Et on invite des organistes à venir jouer avec nous, dont un certain monsieur Dominique Breda, qui est déjà venu.
Ah oui, je le connais.
Vous le connaissez, je crois. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc on a organisé plusieurs concerts depuis une vingtaine d'années, en tout cas, 6 ou 7 concerts, et qui finalement ont beaucoup plu aux gens de notre village, et qui certains les amènent finalement de temps en temps à venir écouter l'orchestre dans lequel je joue à Metz, à l'Arsenal, la semaine dernière, d'ailleurs, quand Simon a dirigé l'orchestre, il y a un couple du village qui est venu voir le concert. Et ils ont été ravis, pas du tout musiciens. En fait, ils découvrent le musée musical. Et ça qui est important, en fait, pour moi, c'est de faire découvrir mon métier et la musique aux habitants de mon village.
Et puis, il n'y a pas que des concerts. À la fin des concerts, il y a quand même des choses sympathiques qui se passent aussi.
Bah, c'est le plus important, en fait, hein, je pense. Bien sûr, c'est le pot d'après concert. Mais voilà, après, ça permet, en fait, surtout, c'est un échange entre les musiciens, les artistes et le public qui est là. Et ça permet d'échanger, de parler de notre métier aussi, de voir ce qui leur plaît ou pas, d'ailleurs. Souvent, certains me disent « Ah oui, ça, j'ai moins aimé ». Mais voilà, c'est un échange très sympathique. Et c'est vrai que cette partie du spectacle est quand même assez intéressante et sympathique. Ouais.
Et alors, c'est le même genre de démarche que vous avez aussi avec l'Orchestre National de Metz Grand Est ?
Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui. On joue beaucoup, on joue à Metz principalement, mais beaucoup aussi dans la région Grand Est, pour voilà, amener la musique un peu dans tous les territoires. Et on tombe justement plus actuellement dans une période de fêtes de fin d'année, de concerts, ce qu'on appelle le concert Nouvel An. Et que nous allons aller donner une dizaine de concerts dans toute la région Grand Est, entre le 3 et le 18 janvier. Voilà, donc même pas très loin de chez moi d'ailleurs, à Dieuze, une très jolie salle de concerts. Et c'est important, oui, d'amener cette musique auprès des gens qui ne vont pas venir à Metz écouter les concerts et qui n'auront peut-être même pas du tout l'idée, en fait, d'ailleurs, qui ne connaissent pas l'orchestre d'ailleurs. Certains. Donc voilà, c'est pour nous, c'est très sympa. Et on a beaucoup de retours, justement, des gens qui sont étonnés de ce que peut proposer un orchestre comme ça en concert. Voilà, c'est même gratifiant pour nous, d'ailleurs.
D'accord. Ben écoutez, on avance dans cette émission et on arrive même à la fin. Alors, en conclusion, je voudrais vous poser une question. Alors, réponds qui veut. Mais voilà la question. Qu'auriez-vous envie de dire à des jeunes ou à des moins jeunes pour les inciter à écouter de la musique, à aller au concert ou à pratiquer un instrument ? On va peut-être commencer par Simon.
De mon parcours, je dirais que la musique m'a apporté quand même 2 choses. Elle m'a aussi appris 2 choses. La première, bon, qui me concerne plus particulièrement, c'est l'orchestre. L'orchestre a quelque chose, a une puissance, à écouter une puissance sonore qui est quand même assez extraordinaire. Et je pense, pour quelqu'un qui ne connaît pas la musique classique, qui n'a encore jamais écouté, parce que ça peut paraître assez austère, assez poussiéreux. Écouter un orchestre symphonique au grand complet, avec 80 musiciens, voire plus, 100, 120, 130, pour les symphonies de Mahler, par exemple, c'est, je pense, une expérience qui est assez unique et assez exceptionnelle à vivre, de sentir le son tout autour de nous et entrer en nous. Et peut-être une deuxième chose aussi que j'ai appris dans mes cursus, notamment dans des cours, des concerts de musique de chambre, donc la musique ensemble. Cette notion de partage et de pouvoir jouer avec d'autres personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, de faire ces rencontres-là, et je pense que la musique est un milieu qui permet ça, de, cette notion de partage et de vivre ensemble.
Alexandre.
Je vais rebondir un peu sur ce qu'ont dit Simon et Bastien. La première chose, quand on va à un concert comme ça, des gens viennent écouter un orchestre en concert, il y a le côté visuel qui est hyper important par rapport au fait d'écouter un disque à la maison. Les gens viennent au concert, le couple qui est venu la semaine dernière, justement, je reviens, au concert à l'orchestre, en fait, ils ont été surtout aussi épatés, étonnés de voir comment jouent les musiciens, comment dirige le chef, mais comment jouent les musiciens aussi. Donc c'est un vrai partage, en fait, une soirée de 2 heures où ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ensuite, finalement, je donne quelques cours en dehors de l'orchestre, et j'ai des élèves qui commencent des fois la trompette à 50, 60, 70 ans. Parce que, en fait, je leur dis un jour, tiens, viens écouter l'orchestre. Et puis, ils trouvent ça tellement bien qu'ils disent, tiens, j'ai envie de faire un instrument, finalement. Ça peut être sympa. Donc, même, Bastien a parlé, on peut commencer à tout âge, mais il a raison. Jeune ou moins jeune, on peut commencer un instrument. Et le fait d'aller écouter, comme ça, des concerts d'orchestre ou de plus petits ensembles, mais ça peut inciter, finalement, à trouver une occupation en dehors d'un métier ou à la retraite, tout simplement.
Ouais. Bon, vous voyez, allez écouter de la musique, en live de préférence, et puis peut-être que vous choperez le virus. Alors, on parlait tout à l'heure des concerts de Nouvel An que l'orchestre de Metz va donner. Je vous propose, pour terminer l'émission, un extrait du concert de Nouvel An de l'année dernière. C'est le fameux In the Mood de Glenn Miller dans un arrangement pour grand orchestre. Thank you. C'était l'Orchestre National de Metz Grand Est dans ce fameux In the Mood de Glenn Miller. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Joris pour la technique. Encore une bonne année à tous et restez bien sur RCN. À mardi prochain.